Francovox, la plateforme des podcasts francophones en partenariat avec TV5Monde.
Le Moyen-Orient, c'est une région très importante pour le tourisme français.
Une clientèle premium.
C'est une clientèle qui dépense, qui apprécie les beaux hôtels et l'art de vivre à la française, notamment sa gastronomie.
Nous, on choisit que ce qu'il y a de meilleur. Là, on va ouvrir en mai la brasserie avec Thierry Marx. On a aligné trois chefs, trois grands chefs, puisque la Tour, c'est la France. Et donc, il faut que, quand on est à la Tour Eiffel, on puisse mettre en valeur tous les produits français.
Nous pouvons aller jusqu'à des dépenses journalières aux alentours des 4 000 $ pour certains touristes, notamment des pays du Golfe.
Ce n'est plus que le shopping. C'est une clientèle qui aime venir à Paris, aime visiter le patrimoine, les expositions, la culture.
Lyon est une des grandes capitales mondiales de la gastronomie,
fait,
avec
oui.
Une concentration très très forte. Plus de 2000 ans d'histoire que l'on parcourt à pied.
Il n'y a pas que la Tour Eiffel à Paris. Évidemment, c'est grâce à la Tour Eiffel qu'on a autant de clients. Je pense à un château de Vaux-le-Vicomte qui a renouvelé complètement son expérience, qui est un truc incroyable à faire.
En termes de volume, c'est à peu près 1 200 000 touristes pré-Covid.
La crise a été un accélérateur de tendance. Ça nous a donné des idées aussi. La vallée de la gastronomie.
Le ski et la montagne française étaient pour ses clientèles des destinations contemplatives, si je puis dire. On allait à Chamonix, on allait dans les Trois-Vallées, on faisait du shopping à Courchevel. Et aujourd'hui, on va sur les pistes et on skie.
Nous sommes la première destination au monde avec 173 stations.
Et alors, qui skie? Ce sont les jeunes.
On a lancé une vision du tourisme bienveillant.
Le tourisme était un des premiers secteurs impactés par cette pandémie.
Ça a été une perte de 7 milliards d'euros pour nous sur 21 milliards d'euros que nous produisons chaque année en termes de revenus touristiques.
Mais il y a très clairement, et pour les touristes du Moyen-Orient, une tendance à la reprise.
Bienvenue dans le podcast C'est Capital, un podcast produit par Physio Studio. Aujourd'hui, on vous propose de partir en France, première destination touristique dans le monde, très prisée aussi par les visiteurs du Proche et Moyen-Orient et de la région au sens plus large, incluant l'Inde. La France est quand même concurrencée par ses voisins et par de nouvelles destinations. La crise du Covid a porté un coup d'arrêt au tourisme, ça a été aussi une véritable remise en question du secteur. L'envie de voyager n'a pas disparu cependant, au contraire. Après être cloués au sol, les avions déploient leurs ailes de nouveau, mais de nouvelles tendances se cristallisent. Tourisme durable, retour à la nature, envie de se cultiver, service premium. Je suis Eva Levesque et nous allons discuter de tous ces défis et de ces nouvelles manières de voyager avec mes invités. Karim Mekacherin, directeur régional du bureau Atout France, Moyen-Orient et Turquie. Christophe Desclou, directeur général de Paris Région. Et Lionel Flasseur, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Mais avant, focus sur le lieu le plus iconique de France, le symbole que tout le monde connaît, la Tour Eiffel.
Tour et tour et tour Eiffel, pour monter, monter au ciel, il nous faudrait un avion.
On va vous la faire découvrir autrement, car il y a du nouveau. Elle aussi se transforme. Et pour cela, je reçois son directeur Patrick Branco-Ruivo. Bonjour.
Bonjour Eva Levesque.
Alors, on pourrait croire que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour attirer les touristes. La Dame de Fer est le symbole de Paris. Et pourtant, vous renouvelez. Pourquoi et donc de quelle manière?
Alors, tout le monde connaît la Tour Eiffel à travers le monde. Partout, on connaît la Tour Eiffel. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les gens vont venir à la Tour Eiffel pour découvrir la Tour Eiffel, pour découvrir cette vue incroyable qu'on a sur Paris et puis pour vivre des émotions, que ce soit des émotions culinaires, des émotions par rapport à l'édifice, des émotions par rapport à Paris. Donc quand on vient à la Tour Eiffel, on vit plusieurs émotions et c'est ce que j'ai voulu dire à nos amis qui sont réunis en ce moment à Dubaï.
Alors justement, donc, quand vous dites ces émotions, c'est quoi plus précisément? Qu'est-ce que cherchent les touristes d'ici?
Alors effectivement, les touristes ici recherchent une qualité de service, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus attendre. Ça, c'est ce qu'on nous reproche régulièrement. Alors aujourd'hui, un billet sur deux est vendu en ligne sur notre site internet. Donc ça, c'est déjà un grand progrès depuis 3 ans. Et puis, bien évidemment, ce qu'ils recherchent, c'est la qualité. Donc on a, par exemple, au deuxième étage de la tour, un restaurant absolument extraordinaire qui est le Jules Verne. Et donc, on a la chance d'avoir comme chef Frédéric Canton. Et puis, on a également lancé, par exemple, un macaron avec Pierre Hermé, un macaron Tour Eiffel Pierre Hermé. Donc,
que
les meilleurs. Voilà. Nous, on choisit que ce qu'il y a de meilleur. Et puis là, on va ouvrir en mai la brasserie au premier étage avec Thierry Marx. Donc, on a aligné trois chefs, trois grands chefs, puisque la Tour, c'est la France. Et donc, il faut que, quand on est à la Tour Eiffel, on puisse mettre en valeur tous les produits français. Et puis ensuite, à l'automne, on va lancer aussi des visites VIP. Voilà, il faudra payer un peu plus, mais en même temps, on n'aura plus à faire la queue et les visiteurs pourront découvrir les coulisses de la Tour Eiffel, notamment sous les piliers.
Donc le service premium, éviter les queues, avoir une expérience plus complète, un mélange entre la visite et la gastronomie.
Exactement, il faut que pour tous les budgets, on puisse accéder à la Tour Eiffel. Ça, c'est normal parce qu'on est une entité publique.
D'où la brasserie.
D'où la brasserie, d'où la vente sur place. On peut manger des sandwichs, on peut voilà.
Donc le ticket, ça serait à combien ?
On peut acheter des glaces, on peut acheter voilà des crêpes. Voilà, quand on est en famille et qu'on a envie de passer un bon moment à la Tour, il faut qu'il y ait pour tous les budgets. Donc la brasserie, en gros, c'est un déjeuner à 50€, un dîner à 120€. Et le Jules Verne, c'est plutôt un déjeuner à 200€ et un dîner à 300€. Mais le Jules Verne, il faut faire attention parce qu'il est victime de son succès. Il faut réserver à l'avance. Si vous savez que vous allez à Paris cet été, par exemple, réservez dès maintenant.
Donc, c'est ça la nouveauté que vous mettez en place.
Exactement. On sait que les publics du Proche et du Moyen-Orient, les publics également d'Inde ou de certaines zones sont très demandeurs de ce traitement spécifique. Et c'est vrai que pendant longtemps, à la Tour, on traitait tous nos visiteurs de la même façon. Et là, on va essayer un peu de différencier davantage nos visiteurs.
Les crises, comme la crise du Covid, les challenges sécuritaires, c'est quelque chose qui vous a touché, qui vous touche, qui vous touchera, à quoi vous faites attention?
Bien sûr.
C'est quoi votre sortie de la crise?
Alors, tous les professionnels du tourisme ont beaucoup souffert, hein, que ce soit en France, que ce soit ici, où les gens ne pouvaient plus voyager. Donc, bien évidemment, ça nous a remis en question. Et on avait déjà lancé une réflexion avant la crise sur comment attirer davantage le public local. Parce que les Français connaissent la Tour, les Parisiens, les Franciliens connaissent la Tour, mais pourtant, ils n'y montaient pas. Et donc, on lance par exemple le 11 juin un immersive game à la Tour Eiffel pour attirer davantage un public de proximité. On va également organiser des brunchs. Alors, l'immersive game, c'est un jeu avec des énigmes, avec des comédiens qui sont là, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et donc, vous avez une dizaine d'énigmes à résoudre. Et vous avez au final, une fois que vous avez résolu les 10 énigmes, vous avez trouvé la solution. Et donc ça a très très bien marché à l'Opéra de Paris. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui sont venues. Et nous, on ambitionne de faire 500 000 visiteurs. Donc on est tourné aujourd'hui vers un public local. Et en même temps, c'est pour ça que je suis là, je dis à nos amis indiens, nous sommes ravis de bientôt vous voir revenir à la Tour. À nos amis également des Émirats, bien évidemment que nous sommes ravis de les voir et qu'on a une offre pour eux, pour qu'ils puissent profiter de la Tour Eiffel.
Alors, est-ce que vous craignez des répercussions de la crise ukrainienne ? Manque de confiance, perte de confiance ou...
Bien sûr, moi, depuis mon arrivée à la Tour Eiffel, j'ai eu plusieurs crises. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu la crise des retraites, avec des grèves très importantes à Paris. On a eu la crise du Covid. Donc, on commence à connaître les crises. Et donc, ça donne une période d'incertitude pour nous. Ce qu'on sait, c'est qu'avant le Covid, on était à 20% de visiteurs français et 80% de visiteurs étrangers. Aujourd'hui, on est plutôt à 50% de visiteurs français et 50% de visiteurs étrangers. La Russie, la Chine et le Japon représentaient chacune 1% de nos visiteurs. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça ne va pas nous atteindre, mais on n'était quand même pas, par rapport à d'autres établissements en France, dans une situation de fragilité. Bien évidemment, ce qui se passe en Ukraine nous touche tous, hein, parce que c'est sûr qu'on va moins faire la fête à Paris en pensant à nos amis ukrainiens. Et on a mis d'ailleurs la Tour aux couleurs de l'Ukraine très récemment, à plusieurs reprises, pour marquer notre solidarité avec l'Ukraine. Et en même temps, il faut qu'on continue à accueillir des visiteurs du monde entier, d'ouvrir nos bras, parce que la Tour, c'est aussi un message de paix. On accueille le monde entier tous les jours à la Tour Eiffel. Et c'est ce qu'on essaie de faire grâce à mes équipes, qui sont vraiment remarquables. J'ai plus de 30 nationalités dans mes équipes. Et donc, on sait faire. Et bien évidemment, on espère tous que de cette crise, on tire des enseignements et qu'on en sorte très rapidement. Alors, nous, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance comparable à celle d'avant le Covid. Donc, on est plutôt sur une tendance à moins 10% par rapport à 2019, qui était notre année de référence, notre belle année à 6 millions d'autres visiteurs. Et donc, on pense qu'en fin d'année, on sera plutôt à 5,7 millions visiteurs. Alors on a les Anglais qui sont revenus récemment, on va avoir les Indiens qui vont venir également prochainement. Voilà. Il y aura sans doute un peu moins d'Américains parce qu'ils auront un peu peur de venir en Europe. La haute saison chez nous va commencer début avril jusqu'à septembre. Et donc on sent quand même dans les réservations qu'il y a une forte demande.
Patrick Branco-Ruivo, merci.
Merci beaucoup.
Karim Mekachera, bonjour.
Bonjour Eva.
Pour accélérer la relance, le tourisme français devra conquérir ou reconquérir les clientèles internationales, mais aussi séduire les Français. Vous qui avez cette vision globale, la région du Moyen-Orient, ça représente quoi pour le tourisme français?
Écoutez Eva, le Moyen-Orient, c'est une région très importante pour le tourisme français. Alors, comme vous le disiez, nous sommes la première destination au monde en nombre de visiteurs. Mais au Moyen-Orient, ce qui se joue, ce n'est pas tant le volume que la qualité de la clientèle, qualité notamment au niveau de la recette que cette clientèle représente pour la destination France. En fait, en termes de volume, c'est à peu près 1 200 000 touristes pré-Covid, hein, j'entends bien évidemment. 1 200 000 visiteurs qui représentent environ 10 millions de nuitées pour notre pays. Donc à partir de là, on peut en déduire une durée de séjour moyenne de 9 et quelques jours par séjour, ce qui est énorme. Et par ailleurs, c'est une clientèle qui aime comme principale activité faire du shopping, donc qui dépense, qui apprécie les beaux hôtels, et l'art de vivre à la française, notamment sa gastronomie. Et donc, nous pouvons aller jusqu'à des dépenses journalières aux alentours des 4 000 $ pour certains touristes, notamment des pays du Golfe. En ce qui concerne le Moyen-Orient, nous avons un triptyque de destination, j'ai envie de dire, hein, aujourd'hui, qui n'est pas figé. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Vous avez Paris qui est the main gateway, et effectivement la porte d'entrée. Et Paris, cette ville magnifique, extraordinaire, que l'on visite, mais qu'on revisite. C'est ça, Paris. Je veux dire, sur d'autres destinations, je ne veux pas en citer, je veux rester en bon terme avec tous mes collègues, mais bon, certaines destinations, vous y allez une fois, vous la découvrez, mais vous n'y retournez pas. Paris, vous allez une fois et vous revenez. Et effectivement, c'est la porte d'entrée. Et donc, Paris et Île-de-France, c'est une région très, très importante. Ensuite, on a bien évidemment la Côte d'Azur, la French Riviera, qui est très, très populaire ici. Et avec des hôtels tous magnifiques, de véritables vaisseaux amiraux de la grande hôtellerie française hein, sur toute la Côte d'Azur. Et puis enfin, à souligner le remarquable effort de la région Rhône-Alpes depuis une dizaine d'années à nos côtés.
Deuxième région. En termes de PIB de tourisme.
Exactement,
en
termes, c'est la deuxième région après l'Île-de-France, vous avez tout à fait raison. Et cette région a fait un véritable effort de promotion. Nous l'avons accompagnée très régulièrement. Et aujourd'hui, à un tel point que le Moyen-Orient représente la 10e clientèle internationale en région Rhône-Alpes, essentiellement pour la partie Alpes. Faut bien le dire, mais vous voyez, j'étais il n'y a pas plus tard qu'une semaine en éductour, ce qu'on appelle dans le jargon éductour, une découverte de destination avec des agents de voyage. J'étais à Évian. Et bien, à Évian, vous avez en fait les premières clientèles étrangères suisses, secondes du Moyen-Orient.
Oui. On y va pour la santé.
On y va pour la santé, pour l'eau d'Évian, bien évidemment, qu'on peut même remplir sa bouteille dans la rue à des fontaines. Mais effectivement, c'est une région qui est devenue très populaire. Donc on a ce triptyque de régions. Et bien évidemment, il y a aussi de nouvelles régions qui ont leur carte à jouer pour venir séduire les clients de cette région.
Forcément, cette clientèle n'a pas pu venir à un moment donné en France pendant la crise du Covid. Justement, comment ça a évolué? Et comment ça évolue maintenant?
Effectivement, je crois que ce n'est pas seulement le Moyen-Orient, mais c'est le monde entier qui, d'un seul coup, a été frappé de plein fouet par cette épidémie avec des paliers. Et effectivement, à un moment donné, on s'est retrouvé dans des situations où le tourisme était tout simplement stoppé. Et ensuite, effectivement, il y a eu différentes périodes où ça reprenait, ça s'arrêtait à nouveau. Et en fait, le tourisme était impacté, un des premiers secteurs impactés par cette pandémie. Aujourd'hui, et depuis, je dirais, l'été 2021, Il y a une sorte d'espoir, même s'il y a des crises entre-temps. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec Omicron récemment. Mais il y a très clairement, et pour le Moyen-Orient, pour les touristes du Moyen-Orient, une tendance à la reprise. Et ça, on l'a très nettement observé pendant l'été, mais également phénomène nouveau hein, qui peut faire partir des nouvelles tendances, des touristes qui sont venus également entre les mois de septembre et les mois de décembre en France. Et effectivement, le tourisme en provenance des pays du Moyen-Orient et du Golfe en particulier, c'est un tourisme plutôt estival. Et il y a aujourd'hui une sorte de tourisme qui se développe sur les ailes de saison, ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire en amont et en aval, et puis également période qui vient, qui est très importante, c'est la période de fin d'année et encore une période, je dirais, plus importante qui est la période post-Ramadan. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a vraiment une clientèle qui est prête à voyager, pas seulement en été, mais également sur d'autres saisons. Et ça, c'est nouveau et c'est vraiment intéressant. Et une clientèle également qui pratique de nouvelles activités. Ces nouvelles activités, je pense en particulier au ski. Le ski et la montagne française étaient pour ces clientèles du Moyen-Orient, je dirais, des destinations contemplatives, si je puis dire. C'est-à-dire, on allait à Chamonix, on allait dans les Trois-Vallées, on faisait du shopping à Courchevel. Et aujourd'hui, on va sur les pistes et on skie. Et alors, qui skie ? Ce sont les jeunes.
Christophe Declous, vous dirigez la région Paris. Paris fait rêver tout le monde. On n'a pas besoin de présenter cette région. Mais que représente pour vous le Moyen-Orient en termes de tourisme ?
C'est une clientèle premium. C'est une clientèle qui aime venir à Paris, aime visiter. Aujourd'hui, vient visiter le patrimoine, les expositions, la culture. Donc, c'est une vraie clientèle qui est en train de changer et de se transformer pour Paris.
Donc, ce n'est pas que le shopping.
Ce n'est plus que le shopping, effectivement. Ça l'a été pendant des décennies. Mais la nouvelle génération qui vient s'intéresse, effectivement, alors un peu au shopping aussi, mais beaucoup au patrimoine, à la culture. Et la clientèle moyenne-orientale, elle va à la Fondation Louis Vuitton, par exemple, pour voir des collections incroyables. Vraiment, cette clientèle est en train de se transformer.
La crise du Covid vous a impacté également, comme tout le monde. Cette clientèle-là, comme les autres clientèles, vous a manqué. Ça représente quoi en perte ?
Alors, c'est la seule clientèle qui ne nous a pas manqué. Alors, elle nous a manqué, bien sûr, pendant les 2 ans où c'était fermé.
Oui.
Mais en 2021, on a retrouvé quasiment le même volume qu'en 2019 pré-Covid. Donc, ça représente à peu près 500 000 à 600 000 visiteurs qui viennent chaque année à Paris. Et ça a été la seule clientèle qui est restée fidèle et qui est revenue très rapidement dès qu'en 2021, on a rouvert les frontières et qu'ils ont pu revenir dans la destination.
D'accord, donc vraiment, ça repart.
Alors, le Moyen-Orient, ils sont revenus. Après, ça repart. Les Américains sont revenus, ça c'est sûr. On a un peu d'Amérique du Sud. Ce qui nous manque, c'est l'Asie. L'Asie, les frontières sont fermées. Maintenant, avec la crise géopolitique, les routes que prennent les avions sont plus longues, ça coûte plus cher, il y a plus de carburant qui est dépensé. Donc, l'Asie, on espère retrouver nos clients asiatiques en 2023.
Voilà, parce que là, ça va être un peu plus compliqué pour voyager jusqu'à l'Europe.
C'est plus compliqué, c'est plus long surtout. Après, de toute façon, en ce moment, la Chine, les frontières sont fermées. Donc, même s'il n'y avait pas la crise avec la Russie, de toute façon, ils ne sortent pas de leur pays. Mais on a bon espoir qu'en 2023, ils puissent revenir.
Lionel Flasseur, directeur général pour la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ayant pour capitale Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique en termes de revenus PIB. Elle présente de nombreux avantages, la gastronomie, la nature. C'est la première région au monde pour faire du ski. Vous avez été aussi impacté, bien évidemment, par la crise Covid.
Alors effectivement, on a été impacté très fortement, hein, puisque sur l'année 2020-2021, la saison de ski n'a pas eu lieu. Hein. Les remontées mécaniques étaient fermées. Vous l'avez dit, nous sommes la première destination au monde avec 173 stations. Et quand vous avez les stations mécaniques qui sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a plus de ski. Alors même s'il y a eu d'autres activités, il y a eu plaisir d'aller à la montagne dans des paysages juste extraordinaires. Pour autant, ça a été une perte de 7 milliards d'euros pour nous sur 21 milliards d'euros que nous produisons chaque année en termes de revenus touristiques. Donc, c'est une perte extrêmement importante.
C'est quoi le type de votre clientèle ? Vous avez de la clientèle européenne et vous avez aussi la clientèle qui vient de la région du Moyen-Orient.
Tout à fait. Effectivement, on a un mix clientèle qui est assez précis. dans le sens où on est bien équilibré entre déjà de la clientèle locale, régionale, c'est 26% de nos clients. Ensuite, la clientèle nationale, la clientèle française, c'est 76%. Et on a un bon quart, effectivement, c'est la clientèle internationale. La clientèle internationale qui est à la fois une clientèle européenne, mais également une clientèle de long courrier. Et toute cette zone du Moyen-Orient est une zone pour nous qui est extrêmement importante, que nous travaillons depuis de nombreuses années, notamment à l'occasion de l'ouverture d'un vol direct par Emirates entre Dubaï et Lyon, ce qui nous a permis effectivement d'avoir, je dirais, un accès facile à Lyon et un accès aussi facile à notre région, parce que Emirates vole également sur Genève, et il faut savoir que Genève est une des portes d'entrée de notre grande région. Donc voilà, une clientèle vraiment importante, que ce soit celle du Moyen-Orient ou bien au-delà, en profitant effectivement des compagnies qui utilisent leur hub pour faire venir les clients.
Les touristes d'ici, ils viennent plutôt pour skier ou ils viennent aussi en été ?
Ils viennent en été, ils viennent pour le ski. Là aussi, 58% de nos nuitées marchandes se font durant l'été. Donc c'est peut-être une idée reçue qu'on peut avoir de notre région qui fait qu'on pense qu'on est uniquement tourné vers les sports d'hiver. Les sports d'hiver est une activité extrêmement importante. Mais l'été, il y a une clientèle également, à la fois pour parcourir les montagnes, bien sûr, la campagne et également la ville. Il ne faut pas oublier que la ville de Lyon est la deuxième ville en France. C'est une ville à taille humaine. C'est une ville qui concentre effectivement du patrimoine, plus de 2000 ans d'histoire que l'on parcourt à pied en 30 minutes, où on voit effectivement toute cette histoire se dérouler sous nos yeux. La gastronomie, on l'a dit, effectivement, Lyon est une des grandes capitales mondiales de la gastronomie, avec une concentration très très forte. Voilà, on a tous ces plaisirs à offrir dans notre région.
Vous avez aussi l'Auvergne, on connaît la gastronomie, la cuisine de l'Auvergne.
Alors il y a la cuisine de l'Auvergne, il y a les fromages de l'Auvergne qui sont très connus. Effectivement, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes a été créée il y a quelques années, c'est assez récent. Ce qui est intéressant avec l'Auvergne, c'est qu'on est sur des paysages et un territoire très différent par rapport aux Alpes. On est dans un terrain de jeu qui est juste extraordinaire pour la randonnée, pour le vélo, pour les activités de pleine nature, avec un paysage très très doux, des anciens volcans éteints depuis quelques millions d'années maintenant, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec aussi une des particularités, c'est les stations thermales. De l'eau qui fait du bien, avec des marques très connues, la marque Vichy par exemple, la marque Evian à l'autre extrême de notre région, ou la marque Badois, très connue en France. Tous ces plaisirs-là que l'on peut retrouver en bouteille, on les trouve également dans nos stations thermales.
Christophe Declous, vous avez l'habitude de vous renouveler avec les différentes crises par lesquelles vous êtes passé. Et ça rend plus créatif, je crois que on peut commencer. La crise sécuritaire, les gilets jaunes, le Covid.
Exactement, depuis 2015, on enchaîne malheureusement les situations de crise en France, globalement, parce que les attentats n'ont pas frappé que Paris, mais ont frappé également Nice, évidemment. Et s'il y a un bon côté avec toutes ces crises, c'est que la destination, qui est quand même ultra connue, c'est peut-être un petit peu endormi, et donc tout le monde s'est remis en cause pour faire revenir les clients. Et donc il y a une meilleure expérience client et une meilleure qualité de l'accueil. Après, c'est sûr que le Covid, là on est reparti à zéro, parce que pendant un an on a eu zéro ou très très peu de touristes. Ça permet aux professionnels, mais à nous aussi, de redessiner des parcours, des offres touristiques qui sont différentes. On mise beaucoup aujourd'hui sur le parcours thématique, d'aller comprendre ce que souhaitent faire nos visiteurs. Il n'y a pas que la Tour Eiffel à Paris. Évidemment, c'est grâce à la Tour Eiffel qu'on a autant de clients. Mais à nous de faire découvrir des destinations, des sites qui sont autour de la Tour Eiffel. Et quand je dis autour, enfin, ça va même au-delà de Paris, parce que c'est toute la région qui est concernée.
Vous avez 20% de nouveaux touristes et les 80%, ce sont des repeaters, ce que vous appelez dans votre langage. Quelles sont les stratégies pour faire revenir ces touristes et faire découvrir toutes ces destinations hors des sentiers battus dont vous parlez?
Effectivement, donc vous avez les bons chiffres. C'est qu'il y a 20% de notre clientèle. En 2019, qui a été l'année où on a battu le record du nombre de visiteurs, on avait 51 millions de personnes, de visiteurs qui sont venus en Île-de-France.
Globalement.
Globalement, ouais. On avait 50% d'internationaux, 50% de Français donc qui venaient. Aujourd'hui, on est plutôt à 75-25 à cause de la crise. Mais il y a, dans ces 50 millions en 2019, il y a 20% qui sont des primo-visiteurs. Donc les primo-visiteurs, c'est clé parce que, évidemment, si on leur offre une meilleure expérience client, ils vont revenir. Et donc vont faire partie des 80% qui sont des repeaters et qui donc viennent souvent pour les marchés lointains, ce qu'on appelle nous les marchés lointains vu de Paris, c'est tout ce qui est Asie, Australie, mais même États-Unis, Amérique du Sud. C'est des gens à qui il faut donner une envie de revenir. par de la culture, par des spectacles, par la gastronomie, par pas mal de nouvelles expériences. Enfin, je pense à Château de Vaux-le-Vicomte, qui a renouvelé complètement son expérience, qui est un truc incroyable à faire. Il faut dire aux auditeurs d'aller voir le Château de Vaux-le-Vicomte, c'est extraordinaire.
Donc le parcours culturel, le parcours gastronomique et des destinations comme le Château Vaux-le-Vicomte. Il se trouve à combien de centre de Paris?
Il est à une heure de Paris. En voiture. Bien sûr, il y a la gastronomie, il y a aussi tout ce qui est coutumier. Par exemple, on a le parcours des impressionnistes qui va du musée d'Orsay et va jusqu'à Giverny. Et en passant par Auvers-sur-Oise, où il y a la tombe de Van Gogh, c'est infini le nombre de choses à visiter à Paris. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens reviennent.
Ce que vous faites aussi, c'est vous avez un site où on peut vraiment personnaliser sa recherche pour obtenir la meilleure offre en fonction de nos intérêts, c'est ça?
Nous, on a digitalisé, effectivement, il y a 3-4 ans, toute l'offre touristique francilienne. Alors, ce qu'on fait, on va déjà essayer de comprendre quels sont vos centres d'intérêt. Donc, ça, c'est comme toutes les marques, et ça s'appelle du precision marketing. Donc, déjà, on comprend. Alors, c'est anonyme, hein, parce que ce n'est pas votre nom que je connais, mais c'est votre profil que j'ai. Et votre profil, je vais vous envoyer du contenu qui va vous intéresser par rapport à ce que vous aimez, pour vous donner envie de revenir. Donc, si vous aimez, je ne vais pas prendre le shopping, parce que c'est trop bateau hein, de parler de shopping ici, mais si vous aimez la culture, ben, on va vous pousser du contenu qui va vous donner envie de venir voir une exposition, de venir voir un
et
musée,
etc. Et qui va m'informer aussi.
Et qui va, bien sûr, qui va vous informer, mais nous, ce qu'il faut, c'est que vous reveniez. Et puis, ce qui est très important, dans la digitalisation de l'offre, on a lancé un roadbook qui est digital. Et donc, par rapport au centre d'intérêt, on vous envoie sur votre téléphone un parcours qui sort un petit peu des sentiers battus afin de vous donner d'autres idées de visite en Île-de-France.
Donc ça fait partie de cette meilleure expérience client. Est-ce que l'accueil aussi, l'accueil de touristes s'est amélioré? Est-ce que l'offre d'hébergement...
Ça fait déjà 4-5 ans que l'accueil des touristes s'est vachement amélioré. Tout ce qui est hôtellerie, restauration, musée, mais même jusqu'au taxi qui était un peu notre point noir. Il y a 10 ans, les taxis parisiens, c'était compliqué. Et aujourd'hui, toute la qualité d'accueil a complètement changé.
Alors justement, Lionel Flasseur, quelles étaient les stratégies que vous avez mises en place dans votre région Auvergne-Rhône-Alpes pour sortir de la crise plus rapidement? La santé était un des axes.
Alors déjà, nous, on ne parle pas de plan de relance, on parle de plan de transition, parce qu'on a lancé une vision du tourisme bienveillant. Donc un tourisme, effectivement, qui agit en pleine conscience et en pleine responsabilité par rapport à ses impacts économiques, environnementaux et sociaux. Et la crise a été un accélérateur de tendances, des tendances effectivement autour de ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire la capacité à prendre son temps, la tendance également d'aller encore plus au contact des territoires et des personnes qui habitent ces territoires. Et ça, c'est important. On ne vient pas uniquement pour s'instagrammer d'un paysage, on vient pour aller à la rencontre des personnes qui vivent ce territoire. Ça nous a donné des idées aussi. On n'a pas chômé pendant cette période-là et on a réfléchi à de nouveaux concepts, et notamment deux qui nous paraissent intéressants. Le premier, c'est la vallée de la gastronomie, vallée de la gastronomie France, qui part de Dijon, qui va jusqu'à Marseille, bien sûr, en passant par Lyon, avec cette colonne vertébrale de plus de 600 km où justement on propose à nos voyageurs de venir à la rencontre des personnes, des territoires et des produits, de les façonner, de les déguster de la meilleure façon. Et puis un deuxième concept qui nous a paru intéressant, et ce n'est pas une forme de récupération par rapport à la crise sanitaire, c'est le tourisme et la santé. On croit beaucoup à ça, on croit beaucoup au fait que les vacances doivent être beaucoup plus qu'une parenthèse. On pense que nous devons apporter un bénéfice durable aux personnes qui viennent nous visiter. Et ce bénéfice, il est au travers de la santé. On a 60% de notre territoire qui est en territoire de montagne, et donc on a fait des études qui montrent que scientifiquement, un séjour en montagne a beaucoup de vertus, a des vertus sur, de par l'oxygénation, a des vertus aussi sur la réduction, sur la perte de poids, a des vertus aussi pour lutter contre certaines maladies cardiovasculaires. Donc tout ça, c'est démontré et aujourd'hui, on souhaite effectivement que tout un chacun prenne conscience de ces vertus-là pour pouvoir, visiter les montagnes du monde entier et on espère les nôtres.
Donc les touristes sont de retour?
Les touristes sont de retour, c'est incroyable. L'attraction du ski, notamment, on fait une très très belle saison, une saison supérieure à la saison 2019-2020. Avant Covid, qui avait été une saison extraordinaire. Donc il y a une appétence pour la glisse qui est très forte.
Christophe Declou, quels sont les challenges qui vous restent pour la reprise?
Bien sûr, l'amélioration de l'expérience client, on n'est jamais au bout, hein, c'est infini. Hein. S'il existe une parfaite expérience client, ce qui aussi nous pousse, nous challenge, c'est de continuer à comprendre quel centre d'intérêt nos visiteurs ont et par rapport au pays où ils habitent. Parce que, je le dis souvent, enfin, un Mexicain et un Nord-Américain qui viennent voir la Tour Eiffel, eh ben, ils vont faire des parcours différents pour aller voir la Tour Eiffel, à commencer par leur parcours online, digital. Et puis, une fois arrivés à Paris, ils ont particulièrement des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes. Un New-Yorkais, peut-être qu'il est fashionista et qui veut, lui, c'est vraiment la mode qui l'intéresse. Et que le Mexicain, pour prendre cet exemple-là, lui, c'est plus la gastronomie. Donc, on va lui trouver un parcours qui va l'intéresser et afin qu'il puisse vraiment découvrir Paris d'une autre façon qu'il l'a peut-être vu quand il est venu la première fois.
Les demandes de la nouvelle génération sont souvent conditionnées par environnement, protection de l'environnement, développement durable. Comment vous vous adaptez à ça?
Déjà, évidemment, le tourisme durable, c'est clé. Hein. Il faut qu'on laisse le moins possible d'empreinte carbone dans ce qu'on fait. Mais en termes de tourisme, évidemment, faire Paris à vélo, sortir de Paris, on a des promenades à vélo, on a le tourisme fluvial.
Mais c'est quoi, c'est le Vélib qu'on trouve?
Alors, il y a le Vélib qui est le service de la ville de Paris, mais il y a aussi des loueurs de vélos électriques. Il y a aujourd'hui la ville de Paris, même à l'extérieur, il y a beaucoup de pistes cyclables. C'est vraiment de pouvoir offrir un service de vélo électrique. Nous, on essaye, et on va parler de plus en plus à des hôteliers pour qu'ils puissent proposer des vélos électriques à leurs clients, même dans Paris, pour qu'ils puissent découvrir la ville de cette façon-là. Mais après, ce n'est pas que le vélo, quoi, le tourisme durable, ça peut être le tourisme fluvial, ça peut être des balades en forêt, dans les parcs, on a les parcs nationaux dans la région. Donc voilà, c'est un tout, le tourisme durable. Et évidemment, on invite les visiteurs à laisser le moins possible une empreinte carbone.
Comment est-ce qu'on attire un touriste pour qu'il aille à l'extérieur de Paris, dans la région?
En l'informant, parce que peut-être que les gens ne savent pas qu'il y a le château de Vaux-le-Vicomte. On les invite à aller au château Rosa Bonheur, à la maison Cocteau, qui sont à 1 heure de Paris, Fontainebleau, le domaine de Chamarandre. Il y a tellement d'endroits à visiter. Après, c'est à nous de les proposer. Nous, on opère tous les points d'information tourisme dans les aéroports, à la sortie des livraisons bagages. Donc, un visiteur qui arrive, il a déjà un conseiller séjour qui va lui dire ce qu'il y a à découvrir et ce qu'il y a de nouveau à découvrir dans la destination.
Lionel Flasseur, de quelle manière vous déclinez concrètement ces offres pour poursuivre ou pour anticiper ces nouvelles tendances dont vous avez parlé?
On a des milliers d'offres, vous en doutez, sur nos territoires. Si je reprends l'exemple de tourisme et santé, on travaille aujourd'hui sur des packages de stations pleine santé. On a 23 stations thermales très bien réparties dans notre région. Effectivement, vous avez les curistes traditionnels qui présentent une pathologie. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle les cures réglementées. Et puis, il y a tout un chacun qui peut venir profiter des bienfaits de l'eau thermale. Et donc, on combine effectivement une offre avec plusieurs activités tournées autour du thermalisme, de l'alimentation et de la nutrition, mais également de se remettre en activité. On pense que les vacances, c'est un peu comme un ordinateur. C'est le bon moment de faire reset et de prendre de nouvelles bonnes habitudes. Et notamment, c'est ce que nous encourageons au travers de cette espèce d'offre packagée qui prend en compte les aspects d'activité, de nutrition, de plaisir de l'eau et de bénéfice de l'eau thermale que nous avons dans notre région.
Pour ce type d'offre, est-ce que vous avez des clients qui seraient plutôt âgés, ou c'est des familles, ou des jeunes?
On a vraiment tout type de clientèle, ça c'est important.
Même
pour les thermes, on est sur... Alors bien sûr, les enfants sont moins concernés par ce type d'offre, ça va de soi. Par contre, les adultes, les jeunes adultes, que ce soit en couple, que ce soit en solo, adorent se faire papouiller dans nos centres thermaux et ont compris aussi que le bénéfice que l'on a à prendre soin de soi avant justement ce qu'on appelle la santé préventive, avant qu'on puisse avoir un pépin de santé justement. Et donc c'est tout le programme que nous déclinons. Pour l'anecdote, durant l'été dernier, nous avons mis en place un numéro vert, donc un numéro gratuit de conseil à distance. Vous appeliez ce numéro et vous aviez des professionnels de la santé à l'autre bout du fil qui permettaient effectivement de vous accompagner dans votre programme, dans votre nutrition, dans les activités, pour faire en sorte que vous ayez un bénéfice réel pour votre santé durant votre séjour en Auvergne-Rhône-Alpes.
Et pour revenir à la vallée de la gastronomie, c'est quelque chose que vous avez lancé l'année dernière et cette année, vous le lancez à l'international. Donc.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, au Moyen-Orient, c'est une des premières destinations que nous ciblons sur ce tourisme d'itinérance, sur ce tourisme de terroir, sur ce tourisme d'authenticité. Encore une fois, au-delà des produits, mais d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent les paysages, qui façonnent les produits et qui nous nourrissent, tout simplement. Avec une diversité, là, le fait de pouvoir faire 600 km au cœur de cette vallée, ça permet aussi de voir une étendue de paysages qui sont juste extraordinaires.
Karine Mekachera, quelles sont les activités que vous avez pour promouvoir la France dans la région ?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la France, en matière de promotion du tourisme, est très active dans la région. Elle a installé un bureau qui était au départ un bureau centré essentiellement sur les Émirats et en gros l'Arabie Saoudite. Elle a installé ce bureau en 2006 à Dubaï et qui, au fil des ans, s'est développé pour mener des actions sur toute la région du Moyen-Orient, du Levant, de l'Égypte et même de la Turquie. Ce bureau, il a vocation de faire la promotion de notre pays, mais dans un univers, dans un environnement qui lui a évolué, puisqu'aujourd'hui, à Dubaï, vous retrouvez toutes les grandes destinations, en tout cas européennes, mais également asiatiques, qui font leur promotion. En ce qui concerne la France, notre promotion, elle s'articule autour de trois cibles principales, bien évidemment, qui sont le grand public, et nous avons développé un véritable écosystème digital qui fonctionne très bien avec des vraies communautés sur les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta ou Twitter. Alors, pas forcément avec des communautés énormes. Sur Instagram, on doit être à 50 000. Sur Twitter, 16 000. Mais on a beaucoup d'engagement, ce qu'on appelle de l'engagement de nos communautés, avec beaucoup de partage de nos posts. Et on voit que nous sommes très, très suivis et très populaires dans la région. Et nous avons bien évidemment France.fr, qui est la vitrine, le portail de la destination France. Et donc, tout cela en langue arabe. Et on a fait le choix de la langue arabe parce qu'on pense qu'effectivement, quand on parle en anglais, on parle à la tête, quand on parle en arabe, on parle au cœur donc de ces populations. Donc le grand public à travers bien évidemment un marketing digital, ensuite le marketing en direction et la promotion en direction des professionnels, et c'est bien là l'objectif de Maraba France 2022. Hein. Et enfin, qui là est vraiment très important parce que nous sommes dans une région que l'on dit dans notre jargon touristique très intermédiaire, c'est-à-dire que le touriste passe encore par un agent de voyage ou un tour opérateur pour réserver. Voilà, ce qu'ici, même si Internet est très utilisé pour s'informer, consulter, l'agent de voyage reste central et a un rôle très très important. Enfin, la dernière et non des moindres, hein, c'est la presse, les médias, les relations avec les influenceurs également. Hein, donc, des influenceurs bien évidemment spécialisés, suivis, pas forcément ayant des énormes communautés, mais en tout cas des communautés plutôt assez bien qualifiées. Et puis, bien évidemment, avec un contenu produit par ces influenceurs dans lequel on se retrouve. Donc là, à travers, si vous voulez, ces trois cibles classiques, on a un peu l'architecture de notre promotion à l'étranger. Et ensuite, il y a, je dirais, une approche marketing pure qui tient compte du poids relatif des marchés dans la région, puisqu'il y a des marchés poids lourds, l'Arabie Saoudite en est un, plus de 30 millions d'habitants. Les Émirats, avec 10 millions d'habitants, est un vrai enjeu. Le Koweït, je l'apprends peut-être à vos auditeurs, mais le Koweït, c'est un des pays où il y a le plus grand nombre de voyages par an et par famille. 3 à 4 voyages par an et par famille.
Oui,
c'est énorme. Donc effectivement, il y a des vrais enjeux dans cette région. Et c'est d'autant plus passionnant qu'il y a une compétition qui est très dynamique. Et qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles destinations. C'est ce que vous disiez dans votre introduction. Vous avez des nouvelles destinations. Le Monténégro, par exemple. Qui parlait il y a seulement 10 ans du Monténégro pour le tourisme ? Aujourd'hui, ils font 4 millions de touristes. Alors, vous voyez, je veux dire, tout est considéré pour un touriste. Aujourd'hui, vous souhaitez partir en voyage, je vais où ? Je vais en Asie, je vais en Europe, je vais en Afrique. Il y a l'embarras du choix. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut se différencier. Et la France, elle a de quoi se différencier. Je dirais que la principale, moi, en tant qu'un homme, en tant qu'homme de marketing, j'ai envie de dire, le principal problème de notre destination, mais qui est également son principal avantage, c'est sa diversité. Sa diversité en termes d'activités, de thématiques. Parce qu'en France, j'ai envie de dire, vous trouvez presque le monde entier en termes de paysage, en termes de type de destination. Vous avez du littoral, vous avez de la montagne, vous avez de la campagne, vous avez du tourisme spirituel, vous avez un tourisme culturel énorme, du tourisme urbain. On trouve tous les types de tourisme dans notre pays. Alors tout cela, il faut essayer de le mettre en musique en termes de promotion et de faire en sorte que les touristes puissent avoir une lecture assez simple de nos destinations et en tout cas, pour chaque type de touriste, qu'ils puissent trouver trouver quelque chose qui corresponde à ses envies.
C'est la fin de cet épisode. Il a été écrit et présenté par Eva Levesque pour Fusio Studio. Enregistrement Fahim Benchouk et Eva Levesque. Habillage Eva Levesque et Abdelkader Hamdi. Ce podcast est désormais en accès libre. Je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous sur francovox.org. Cet épisode est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast.
Vox, la plateforme des podcasts francophones en partenariat avec TV5 Monde.